With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle où on parle de nous, de soi. Aujourd'hui, on évoque les émotions. Connaissez-vous l'hyper-émotivité? Êtes-vous une personne hyper-émotive qui connaît ses hyper-émotions? Comment vivre au mieux cette hyper-émotivité? C'est pour comprendre ce terme et comment cela se traduit au quotidien que j'ai contacté Mariette Strubdelin, psychologue du travail, coach. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont le récent « Quand nos émotions déraillent » aux éditions Erol. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hyper-émotivité et quelle est la différence avec l'hypersensibilité?
C'est une bonne question parce qu'en fait, souvent, il y a une confusion. Et je pense que la confusion, elle est que quand on parle d'hyper-émotivité, souvent, en fait, on entend hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, en vraiment deux mots, c'est une exacerbation des perceptions. C'est-à-dire qu'on ressent, en fait, de façon extrêmement forte le monde qui nous entoure, sans filtre. Et ça se manifeste, en fait, sur différents plans, cognitifs, au niveau des pensées, comportemental, physique et émotionnel. L'hyper-émotivité, c'est l'hypersensibilité, mais sur le plan émotionnel, en fait. Donc, c'est une sous-partie, si je puis dire, voire même une conséquence de l'hypersensibilité. Quand on est hypersensible, on est de fait, sur le plan émotionnel, hyper-émotif.
Quels sont les signes de mon hyper-émotivité?
Je pense que ça peut se remarquer sur, là encore, différents plans ou à différents niveaux. Quand on observe qu'on est très fréquemment, voire tout le temps, submergé par ses émotions, ça, c'est déjà un premier indicateur. En fait, c'est des ressentis qui sont amplifiés, intenses, fréquents et durables. Alors qu'une émotion, elle n'est pas permanente, ou en tout cas, ça peut être différents types d'émotions, mais ce n'est pas permanent, ce n'est pas forcément intense et c'est rarement durable, une émotion. Ça peut être dans nos réactions. On se rend compte que nos réactions sont inadaptées au niveau de la qualité, l'intensité, la fréquence ou la durée par rapport aux situations déclencheurs. Genre, mon patron me fait une remarque et j'ai une réaction complètement excessive par rapport à l'élément déclencheur. Et puis, ça peut être aussi des manifestations physiques, des rougeurs, des pleurs, une main moite, très, très mal au ventre, des diarrhées, voilà. C'est-à-dire des symptômes forts, quoi, excessifs presque, par rapport à l'élément déclencheur. Alors ça, c'est nous qui pouvons en être témoins. Et puis, parfois, c'est notre entourage, en fait, qui nous renvoie l'hyper-émotivité. Alors, j'ai noté quelques phrases un peu types du genre « tu exagères, passe à autre chose, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, tu ne devrais pas te mettre dans un état pareil, tu es vraiment susceptible, je ne comprends pas ta réaction », qui sont des signes que peut-être il y a une forme d'hyper-émotivité dans notre manière de fonctionner.
Je suis hyper-émotif. Pourquoi il ne vaut mieux pas combattre cette hyper-émotivité? Pourquoi faut-il mieux composer avec son hyper-émotivité?
Alors, il y a peut-être deux raisons à ça. La première, c'est que l'hyper-émotivité, comme l'hypersensibilité d'ailleurs, sont des traits de caractère. Donc, soit c'est quelque chose qui nous appartient en propre, ça fait partie de notre tempérament. Et je dirais que voilà, ça fait partie de notre ADN presque. Je veux dire, on ne peut pas combattre quelque chose qui fait partie de nous, si ce n'est se nier une partie de ce qu'on est en fait, ce qui serait pour le coup extrêmement violent. Donc, ça peut être un trait de caractère ou ça peut être suite à un trauma. Mais dans tous les cas, ça fait partie de nous et donc on peut difficilement combattre une partie de soi, quoi. C'est une forme de violence à soi-même. Et puis par ailleurs, dire combattre, ça voudrait dire être en guerre contre quelque chose et comme si on voulait empêcher en fait qu'elles émergent, alors qu'on ne peut pas ne pas ressentir. Quelque part, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. On est obligé de faire avec. Alors, dans mon livre, je développe pas mal ce qu'on appelle la question du contrôle individuel et social, c'est-à-dire que l'organisme est plutôt bien fait, il nous aide à dans certaines circonstances, imaginez, vous êtes à un enterrement, puis vous avez un fou rire qui arrive. On peut arriver à réprimer parce que socialement, ça la foutrait mal de se mettre à rigoler à un enterrement, par exemple. Donc, on peut arriver à masquer ou à réprimer, en fait, certaines émotions. Donc, ça, c'est une forme de contrôle qui peut être, dans certains cas, utile et qu'on a tous utilisé, hein, d'une manière ou d'une autre. Le risque, c'est que quand on est dans le combat, donc dans quelque chose qui serait activement contre, ce serait, en fait, de forcer ce trait-là, quitte à faire de ce contrôle quelque chose d'extrêmement rigide. Ben, je me contrôle, mais je me contrôle tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je pleure jamais ou je ris jamais, vous voyez. Alors, autant ne pas rire à un enterrement ponctuellement, ça, c'est tout à fait adapté. Mais si ce contrôle devient quelque chose de permanent, donc de rigide, là, ça devient problématique. Combattre est un risque parce que, comme on dit souvent, si je ne m'occupe pas de mes émotions, elles vont s'occuper de moi. C'est-à-dire le risque, c'est qu'à mettre la poussière sur le tapis, comme on dit, ou à réprimer trop, par exemple, ses émotions, eh bien, on ne fait que les entretenir, sauf qu'on ne regarde pas ce qui se passe, et elles vont grossir, 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 jusqu'à un moment donné, probablement, nous submerger. Donc, on a plutôt intérêt à faire avec.
Comment on fait avec? Comment on gère?
Ça peut être le temps d'une vie pour travailler là-dessus. Je pense que la première chose peut-être à dire, c'est l'émotion, elle est utile. Il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions désagréables, ça c'est une évidence, mais il n'y a aucune émotion négative. En fait, les émotions, elles nous sont utiles. Donc, c'est déjà de comprendre ça et d'accepter qu'on puisse, dans certaines circonstances, être traversé par des émotions, même désagréables, parce qu'elles nous disent des choses. Donc, déjà, c'est accepter. Donc, ça peut passer aussi par une sorte de déprogrammation, parfois, de ce que nos parents ont pu nous dire, du genre, ben, un garçon, ça pleure pas, un garçon, ça a pas peur, ou une fille, ben, une fille, ça se met pas en colère. D'aller chercher toutes ces programmations, ces croyances, qui ont fait peut-être de certaines émotions des émotions interdites. Ça peut être aussi de se désensibiliser au regard des autres. C'est pas parce qu'on me dit t'es nul, tu dois pas exprimer tes émotions, qu'il faut croire les gens sur parole. Ben non, c'est comme ça. C'est comprendre aussi les émotions, comprendre qu'est-ce que ça dit, hein, qu'est-ce que chacune des émotions nous donne comme message, et en fait les écouter et faire ce que l'émotion finalement nous invite à faire. Par exemple, si je suis en colère, ben ça nous invite à poser des limites, peut-être à savoir dire non dans certaines circonstances. Et à partir du moment où j'accompagne l'émotion dans le signal qu'elle m'indique, naturellement, l'émotion, ensuite, elle va faire son chemin et se dissoudre, en fait.
Est-ce que vous avez des conseils pour vivre au mieux son hyper-émotivité au sein de la famille ?
Je pense que déjà, dédramatiser, c'est-à-dire le fait de savoir que ce n'est pas une tare, que ce n'est pas antinaturel, que ce n'est pas une maladie mentale, etc., déjà, ça aide, ça permet d'accepter, de redonner de la légitimité. Ça peut rassurer des parents qui peuvent avoir un enfant hyper-émotif, de se dire déjà, ce n'est pas grave, et on compose avec ça. Donc, de ne pas le culpabiliser, de ne pas l'obliger à ne pas exprimer, en fait, tout simplement d'accompagner les émotions.
Et au sein du, soit de la fac, soit au sein du travail, comment vivre au mieux cette hyper-émotivité ?
Ça dépend des situations. C'est-à-dire que dans certaines situations où on peut être envahi par l'émotion, on peut, alors quand c'est possible, mais des fois ça ne l'est pas, c'est au moins d'exprimer avec des mots. Ça permet de mettre un peu de distance aussi par rapport à ce qu'on ressent, ne serait-ce que de dire, en fait. Là, je sens, voilà, là, je me sens très, très, très énervée. Là, je me sens très affectée. Là, voilà. Ça peut permettre aux personnes en face déjà de comprendre ce que la personne est en train de vivre et peut-être derrière d'accompagner par une écoute empathique ce que la personne est en train de vivre. Dans certaines situations, ça peut être de demander du temps, c'est-à-dire d'avoir une espèce de phrase un peu type où quand on sent que l'émotion arrive pour pouvoir prendre la mesure des choses avant d'être à l'acmé de l'émotion et là, on est submergé. Donc déjà, se connaître en fait et de repérer. Ouh là, là, je sens que c'est en train de monter, ça monte, ok. Donc ça peut être de respirer, ça peut être d'exprimer parce que quand c'est pas trop important, on peut encore mettre des mots. Ça peut être d'avoir, je vous disais, une phrase toute faite pour dire, écoutez, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, je vais vous demander de m'excuser quelques minutes et quand c'est possible, par exemple, de s'isoler. Ou ça peut être, par exemple, dans une réunion, de dire, là, j'ai besoin de quelques minutes pour me reprendre, je me donnerai mon avis après tout le monde. Vous voyez, prendre un temps, en fait, un petit temps qui peut permettre de respirer, maîtriser l'émotion sur le plan physique, avant éventuellement de pouvoir revenir à une relation sociale.
Parce qu'au travail, c'est, on n'est pas dans la même sphère entre la famille et le travail. C'est compliqué.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire à chaud, j'ai envie de dire, quand on est submergé. Après, il peut y avoir un travail, je dirais, plus de longue haleine, quand on sait qu'on est hyper émotif et qu'on peut être par moments débordé. Ça peut passer par des lectures, de la formation, la méditation. Il y a des techniques corporelles qui peuvent aider, comme la sophrologie, par exemple. Il y a des thérapies aussi qui peuvent aider. La médiation artistique. Souvent, les gens hyper émotifs sont en fait des hypersensibles et parfois, l'expression artistique peut être un bon moyen aussi d'exprimer et finalement de sublimer quelque part cette hyper émotivité. Par passer par l'écrit, passer par le dessin, le théâtre, ça peut être des merveilleux véhicules pour pouvoir, utiliser, c'est pas le mot, mais finalement profiter de cette source qui est là et dont on ne sait pas forcément quoi faire dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire.
Merci à Mariette Strub-Delin pour cet échange. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. N'hésitez pas aussi à nous envoyer quelques petites étoiles sur Apple Podcast et des commentaires, on est très attentifs. Pour nous contacter, une seule adresse audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.